droit de dire ce que je pense. Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française qui répondra de ses doléances. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds. Et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française qui répondra de ses doléances. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est reparti pour contre-histoire, et un contre-histoire en direct, s'il vous plaît. Alors, j'ai reçu cette semaine un document, un cadeau passionnant. Un cadeau passionnant, une page du livre terrible de Gunther Anders, L'obsolescence de l'homme. Alors, d'abord, tous mes remerciements à l'ami qui m'a fait ce cadeau, qui nous a fait ce cadeau, que je vais vous présenter un peu comme un commentaire de texte au bac, ça vous rappelle quelque chose. Alors, je vais alterner les paragraphes de cette page avec mon grain de sel perso. J'espère que... J'allais supporter la comparaison. Non, faut pas pousser. J'espère que vous me pardonnerez cette audace. Alors voilà ce que nous dit Gunther Anders. C'est un peu la suite, c'est même beaucoup la suite de George Orwell dans son 1984. Alors ça a été écrit au début des années 50 et c'est paru en 1956. L'obsolescence de l'homme. Voilà. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes de guerre du genre de Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif. Comment on nous le démontre en 1984 ? Conditionnement si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance. Et nous, on peut se souvenir de ce qui a été découvert en Roumanie à la chute de Ceausescu. En limitant leurs aptitudes biologiques innées, toute découverte étant stimulus intellectuel, l'empêchement de découvrir va scléroser le cerveau. Empêcher déplacement, marche verticale, préhension, découverte des objets, imitation, construction, etc., autant d'étapes cruciales dans le développement de l'enfant. Empêcher tout cela va stériliser le processus de pensée et de création, avec pour résultat la fabrication d'enfants rétrogradés aux fonctions animales les plus limitées, comme on l'a découvert dans les orphelinats roumains après la chute des Ceausescu. Et ensuite, continue Anders, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation. pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. On reconnaît là le système d'orientation scolaire quasi automatique des enfants issus de l'immigration, et en particulier des anciennes colonies. Jeunesse dont Saïd Bouamama et Albert Memmi, entre autres, ont largement analysé la situation d'apartheid scolaire. Le problème majeur de cette jeunesse est son avenir professionnel. Donc il est facile de faire tout accepter aux parents qui se battent avec employeurs et administration pour élever dignement leur famille. Il est facile de leur faire miroiter les emplois toujours disponibles en leur promettant pour leurs enfants une intégration plus facile que ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Mais on explique rarement alors que ces emplois-là seront non seulement très mal payés, mais surtout dangereux. Intérimaire du nucléaire, cordiste, ouvrier du bâtiment et des infrastructures de l'habitat collectif ou des transports, construction, entretien, rénovation, d'autant plus dangereux que les formations auront été succinctes, voire inexistantes, et que les équipements et les consignes de sécurité y sont rarement contrôlés quand ils existent. Voir pour cela les émissions de Contre-Histoire sur ces questions. Et encore, bien sûr, ouvriers de la chimie, de l'agriculture intensive hyper polluante, de la sidérurgie et de la plasturgie si toxiques. La crise du coronavirus a prouvé que les emplois nombreux de la grande distribution, de la restauration, des transports et de la santé qui accueillent traditionnellement tant de travailleurs issus de l'immigration ne fonctionnait bien qu'avec le courage et l'énergie de ce public longtemps regardé comme un lumpen prolétariat mal considéré, ayant toujours fort peu de perspectives d'améliorer son avenir professionnel, du fait d'un fossé culturel que l'orientation scolaire systématique et abusive aura creusé dès l'enfance. Situation soigneusement préparée par l'administration en général. Gestion locale des logements sociaux. Orientation scolaire autoritaire longtemps décidée par des personnes peu compétentes et ne zappez pas violemment s'il vous plaît. Moi, vieille enseignante en lycée professionnel, je sais de quoi je cause. J'en ai vu des retraités qui arrondissent leurs maigres pensions en diffusant des informations erronées dans des documents de l'ONICEP pas toujours à jour. De ce côté-là, il y a une évolution, c'est vrai, et c'est pas dommage. Mais ce que je vous dis, je l'ai vu, et je l'ai vu durer longtemps. C'était même un sujet de plaisanterie classique dans l'éducation nationale. J'ai vu aussi des profs diplômés, mais terrorisés par les élèves, qui, après avoir usé toutes les possibilités de décharge de cours possibles grâce aux formations complémentaires ou syndicales, se précipitaient dans les bureaux sinistres où ils étaient censés motiver la jeunesse pour les emplois disponibles, aussi joyeux et motivants que nous l'avons vu plus haut. Les politiques culturelles, nationales et locales ont aussi une lourde responsabilité dans cet isolement des jeunes générations marginalisées. La préférence affichée des gouvernements pour l'ouverture des grandes et moyennes surfaces surpeuplées le week-end plutôt que des théâtres, cinémas et autres lieux culturels, fût-il à l'air libre. Quand nous rendra-t-on notre Garonne expose ? Ce choix politique condamne donc encore davantage jeunes et moins jeunes à se contenter d'Hanouna plutôt que d'aller découvrir telle exposition sur la Commune ou la peinture de Goya ou de Picasso. Une petite pause, si vous permettez. reprenons le texte de Gunther Anders. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de philosophie. Et pourquoi pas de la philosophie, de la vraie, dès l'enseignement primaire? Antigone, en CM1 ou CM2, ça peut remettre en question les rois et les reines superbes et pailletés. Et au lieu de faire rêver les mômes de princesses à la beauté inaltérable et de leurs chevaliers servants nobles et galants, la rencontre avec Créon pourrait les faire réfléchir sur l'esprit des lois, comme dirait quelqu'un. Ah ben oui, mais là, on en ferait de la graine d'anarchiste. Pas de ça, Lisette. L'euthanasie aussi, on peut en parler en primaire. Et avant la troisième. Leurs grands-parents ou arrière-grands-parents meurent aussi à nos gosses. Et pas toujours dans la dignité. La philosophie, ça peut apprendre très tôt à se servir d'un bulletin de vote. Ah ben oui, mais c'est bien ça le problème, ma bonne dame. Vous imaginez des centaines de milliers de Greta Thunberg ou Malala, prix Nobel de la paix 2014, aux conseils municipaux des jeunes de toutes nos municipalités, foutre le bordel jusqu'à obtention de conditions de vie et de mort plus décentes, de repas bio à la cantine, d'horaires de travail allégés pour les parents, pour réchauffer le climat familial, détruit souvent par des écrans addictifs qui servent de parents de substitution aux enfants à la clé, dont on fait partie les miens, je l'avoue. Et donc de plus d'emplois et moins de chômage, plus de participation citoyenne aux affaires locales, à l'organisation des entreprises et des administrations, et donc moins d'abus de pouvoir partout. Enfin, la vraie vie, quoi. Là encore, dit Anders, il faut user de persuasion et de non-violence directe. On diffusera massivement, via la télévision, des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, capital, le coup de la musique incessante, un des meilleurs coups des programmations audiovisuelles, culturelles ou soi-disant telles, ou non. On vous débite n'importe quoi, de préférence en globiche, sur des musiques entraînantes, voire obsédantes, avec l'argument culturel imparable, que, en introduisant une langue étrangère dans les foyers, on ouvre l'esprit et l'avenir. Et si le chanteur à la belle voix balance des slogans mortifères en musique, on peut reprendre en chœur le refrain « Pousse au crime », pas compris, mais en anglais ou en espagnol, s'il vous plaît, ou mieux en japonais, ça fait tellement chic. Vous, je sais pas, mais moi, j'aime mieux mamie au gué, j'aime mieux mamie, et plus ma petite louge que les Niagara Falls, et plus le vieux Toulouse que la muraille de Chine. Mais enfin, chacun ses goûts. Il est donc bon, dénonçait Gunther Anders, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. Mais n'imaginez pas qu'on parle de sexualité de manière pédagogique, efficace et respectueuse de chacun. Le porno, c'est ça qui fait de l'audimat et qui empêche de penser le plus efficacement. Bien sûr, les chaînes dites familiales ou culturelles limiteront les dégâts en affichant surtout des mouvantes créatures de rêve interprétant des héroïnes dont le sort enviable ou terrible empêchera le bon peuple de penser à ses propres problèmes et de protester contre leur cause. En général, continue Anders, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Nous assène encore sans ménagement Gunther Anders. Et nous, pauvres pommes, fashion victims, comme on a appris à dire, on achète tout ce que la mode et la publicité nous imposent pour être dans la norme. Maison, chien, résidence secondaire, vacances, Megève, Bahamas, Rolex, bien sûr, alliance en diamant pour satisfaire son besoin de paraître et le ou la conjointe que l'on a plus ou moins conscience d'avoir acheté aussi de la sorte. Rendons le micro à Gunther. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. Et on sait bien que le modèle de la liberté est bien sûr concrétisé par la voiture et la carte bancaire. C'est bien ça le bonheur standard. Tellement que ceux et celles qui refusent cette comédie deviennent suspects, au point qu'il convient de s'en détourner. Et ça marche. Nous voulons tous être comme les autres, et surtout les enfants. Et les parents sont entraînés dans cette course, car on veut que notre petit ou notre petite ne soit pas ridiculisé ni marginalisé dans la cour de récréation. Alors, les parents obéissent à l'enfant prescripteur et achètent, pour être à la hauteur des pensières qu'ils croient honorables, pour paraître autant que le voisin de palier. On sait bien à quel point l'enfant, pas comme les autres, mal habillé, sans Pokémon, sans Playmobil, sans Nike, sans smartphone ou tablette, subira les moqueries et cruautés de ceux qui sont déjà les possédants de ces objets marqueurs sociaux, ridicules et laids. Ceux qui sont donc dans le coup, qui font partie de la bande. Bref, ceux qui sont intégrés. Retournons à l'obsolescence de l'homme. L'homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu'il est, un veau, comme disait De Gaulle, du bon peuple qu'il avait élu. Et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Alors pour ça, pas de problème. La technologie du 21e siècle apporte les meilleures solutions. Reconnaissance faciale, drones, grenades, flashball, matraque, canon à eau, clé dans le dos, etc. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité, celle du troupeau donc, est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Et voilà pourquoi notre président, qui a des lettres, veut déclencher les rires en évoquant les écolos qui rêveraient de retourner à la bougie. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels.
Thank you.
Ainsi, on accuse très facilement les écologistes en particulier, mais aussi tous ceux qui veulent ou prétendent vivre autrement. Rappelons-nous des Irlandais de Vincennes, des Babacools de Charente, et n'oublions jamais Rémi Fraisse. On monte des affaires abracadabrantesques, on arrête préalablement à toute action répréhensible ceux qui se rendent simplement à une manifestation sans aucune arme. Qu'à cela ne tienne, on baptisera arme par destination, foulard ou flacon de sérum physiologique destiné à se protéger des gaz lacrymogènes. On fera même un procès à Odile Morin. Bonjour Odile. Odile, accusée d'avoir agressé un policier dans son fauteuil roulant, arme par destination évidente. Fauteuil qui échappa au contrôle de la dame après l'intervention intempestive du policier sur le fauteuil en question qu'il ne savait pas faire fonctionner. Et Odile, dans son fauteuil renversé, eut le pied broyé. Mais ce fut le policier qui eut droit à une interruption temporaire de travail. Pauvre France, ridiculisée, là, dans toute l'Europe. On observe cependant, nous dit encore Gunther Anders, qu'il est très facile de corrompre un individu subversif. Il suffit de lui proposer de l'argent et du pouvoir. Quelques écologistes encore, dont parfois même des ministres, ont illustré ce propos amer de Gunther Anders. De Brice Lalonde, qui en vint à parler d'énergie verte pour le nucléaire, à Benoît Hamon, qui voulait rentabiliser l'EPR. En passant par l'icône 68 Arde que je ne nommerai pas par pudeur, je l'ai trop admiré, qui finit son parcours politique en adoubant Macron. La députation européenne ne doit pourtant pas générer de fortune à faire tourner la tête et la veste. Qui sait ? La malédiction des ors du pouvoir fut-il républicain, semble sans remède. Quand un ministre n'est pas d'accord avec son gouvernement, disait Jean-Pierre Chevènement, il faut partir ou fermer sa gueule. Certains, mais surtout certaines, sont partis, en effet, plutôt que de renier la cause et l'avenir. Voilà, c'était donc mon commentaire d'un court extrait de L'obsolescence de l'homme de Gunther Anders, dont le premier tome est, je vous le rappelle, paru en 1956 et le suivant en 1980. C'était mon chagrin du jour, que je vous communique grâce à la vigilance de l'ami discret qui m'a envoyé ce texte, texte que vous retrouverez sur la page de Contre-Histoire de ce 17 avril. Vous pourrez trouver aussi sur le site Dilectio, dilectio.fr, une synthèse passionnante de cette œuvre d'Anders par Serge Lelouch, s'il vous plaît. Si je faisais encore des sujets d'examen, je proposerais ça au bac. Vous pourrez aussi écoutez la lecture du tome 2 de L'obsolescence de l'homme sur Dailymotion. Alors dépêchez-vous parce que ça risque de ne pas rester en ligne longtemps. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à samedi prochain. Prenez soin de vous. Les temps sont toujours dangereux. Et j'arrête Rachmaninov que j'aime tellement, parce qu'il faut finir par Redan, évidemment. Il y a tellement de gens qui ne l'ont pas entendu peut-être pendant plus d'un an. Alors voilà, Madame la République.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen.